bord.
Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Muntou, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. En tout cas bienvenue dans cet engin super fast, super rapidos comme on le dit bien sûr. Nous apprêtons à décoller comme d'habitude ce soir dans une ambiance des plus exaltantes. Bien sûr comme d'habitude vous attachez vos ceintures de sécurité car notre destination est placée en tout cas sous les signes de l'évasion, de la bonne musique, des invités et aussi nos segments habituels dans RM Show. Merci aux amis qui sont en train de nous capter à Lubumbashi ce soir, et ceux-là qui sont à Dakar, c'est au Sénégal. Let's go. Nous sommes encore, c'est le mois de février, ce mois de l'histoire des Noirs observé en février, on vous l'a dit depuis le début de la semaine, ici aux États-Unis et au Canada, qui est une célébration annuelle, je rappelle, des réalisations et des contributions des individus noirs tout au long de l'histoire, en particulier ceux d'ascendance africaine. Ce mois met en lumière le rôle important que les Noirs ont joué dans la formation des sociétés, de culture et du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc ce mois, nous continuons à célébrer ces réalisations des personnes, des Noirs en tout cas en général, partout dans le monde, pas seulement ici aux États-Unis. Cette observance a été établie pour la première fois, je rappelle, ici aux États-Unis en 1926 par l'historien Carter Woodson. Initialement, c'était sous la forme d'un événement d'une semaine appelé Semaine de l'histoire des Noirs. Elle a été étendue en un mois entier, c'était en 1976, pour permettre une réflexion plus profonde et plus complète sur l'histoire, la culture et les réalisations des communautés noires partout dans le monde aujourd'hui. Et nous continuons à célébrer ce mois aussi ici dans cette émission, comme bien sûr nous le faisons chaque mois de février ici dans RM Show. Merci à vous et n'oubliez surtout pas, vous pouvez nous contacter en réagissant à notre sujet de la semaine aussi, si vous voulez réagir ou poser des questions à nos invités ou même nous dire bonjour tout simplement. Cela ne ferait pas du tout du mal. C'est au plus 1 703 350 37 31. Je rappelle, c'est au plus 1 703 350 37 31. Les numéros sont là. Et notre sujet, bien sûr, de cette semaine, c'est l'IA ou l'intelligence artificielle et autonomisation pour les diagnostics médicaux, contact humain et compassion sont-ils possibles? C'est bien sûr la grande question de cette semaine. Ouais, exactement, parce qu'on parle santé, exactement. Les systèmes de santé devraient-ils investir vraiment davantage dans l'IA? On en parle avec mon invité ce soir. Vous saurez c'est qui dans un instant. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de nous appeler ou réagir à ce sujet. J'avais déjà vu quelques messages venant de Bamako, Mali, de Gabon, et nos amis qui nous ont écrit de Conakry, Cotonou, Benin. Merci beaucoup à eux. Et vous rappelez-vous, c'est au plus 1 703 350 37 31. Espresso, c'est la chanson qui nous fait décoller ce soir avant de continuer avec la suite de nos programmes.
I can't really
Vous écoutez RM Show sur VOA Afrique.
Et bien sûr, quand vous écoutez ce son, vous savez qu'il est prêt pour nous de passer à l'anglais avec Michelle Joseph. Elle est déjà prête, à qui on dit « Hello, Michelle ».
Hello, Roger. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. The word of the day, le mot du jour, income. I-N-C-O-M-E. I-N-C-O-M-E. Un revenu, un salaire. She had a huge income. Working as a doctor, elle gagnait un énorme salaire en tant que médecin. Despite having few skills, he earned a decent income. Malgré des compétences limitées, il gagnait bien sa vie. Low income housing is hard to come by. Les habitations pour revenus modérés sont difficiles à trouver. As an engineer, she was in a high income bracket. En tant qu'ingénieur, elle était dans une catégorie de revenus élevés. With that income, you're well off. Avec ce salaire, tu peux bien vivre. With this income, I'm struggling. Avec ce revenu, j'éprouve des difficultés. How are you gonna manage on such little income? Comment vas-tu t'y prendre avec un si petit salaire? Back to you, Roger.
Merci infiniment à Michelle Joseph pour ce segment anglais. On va continuer avec la suite de nos programmes. Avant de passer à l'actu, on déguste ce morceau de K-pop qu'a demandé la famille Kombari qui nous capte ce soir à Ouagadougou. Switch. Move that shit, yeah, yeah. You full off on sip. Falling off it, I got grip. All around the trap, it hit. All around the map, you trip. Take it like 9 out of 10. Think they gon' find that again. Think I gotta bind that again. Behind the tent, I sin, I've been. Can't forget about that place we went. Right if you put that in my hand. Do you still pop boom? Do you dance? Do you still drop some? No, you can't. I got a lot, but that's the chance. Yeah, yeah. Hace tiempo no te veo, te quedo en mí a mi jangueo, ya no tengo la rodeo, ahora en la G-Wago me poteo, ey, y te lo mato, al frente de la playa, como aquellos tiempos, de camino a Maya, tú ni fumabas y chingando te arrebaté, para no pillar tiempo, no lo pienses, trépate.
Show sur VOA Afrique.
Mais comme il est si important pour nous d'être informés, l'actu c'est très important, c'est avec Jean-Louis Maffema.
Conflit dans l'est de la RDC, le procureur de la CPI, Karim Khan, est arrivé dans la nuit à Kinshasa, tandis que les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé trois anciens dirigeants africains pour être les facilitateurs d'un processus de paix. Au Tchad, les premières élections sénatoriales de l'histoire ont lieu. Au total, 124 candidats issus de 16 formations politiques participent à l'élection indirecte organisée à la mairie de N'Djamena, quelques semaines après des élections législatives. L'ONG Human Rights Watch a accusé la milice, les forces du bouclier soudanais, alliées à l'armée régulière, d'avoir mené le 10 janvier une attaque qui a fait au moins 26 morts dans un village du centre du Soudan. Les autorités libyennes ont annoncé avoir lancé un mandat d'arrêt contre un homme accusé d'avoir tenté de tuer un ministre le 12 février à Tripoli et qui a fui, selon elle, vers la Tunisie voisine.
Et voilà, merci beaucoup Jean-Louis Maffema. Si vous êtes en train de nous capter ce soir, on parle d'un sujet très important. Les systèmes de santé devraient-ils investir davantage dans l'intelligence artificielle et l'autonomisation pour les diagnostics médicaux, ou le contact humain est-il essentiel pour des soins de santé précis et compatissants? C'est la grande question. Et d'ailleurs là, on va vous proposer une interview dans un instant avant d'introduire mon invité de ce soir qui est le docteur Diomi. Et dans ce studio avec nous. Mais avant de passer à mon invité de ce soir, on va parler d'une étude récente qui a révélé que les médecins étaient plus souvent en mesure de détecter le cancer du sein lorsqu'ils utilisaient l'intelligence artificielle pour interpréter les résultats des mammographies, comme le rapporte d'ailleurs notre collègue Dora Mekouar de VOA. L'intelligence artificielle a permis d'augmenter le taux de détection du cancer du sein de plus de 17%. Le récit est de notre collègue John Linden.
Lorsque les médecins ont utilisé l'intelligence artificielle pour analyser les mammographies de plus de 460 000 femmes allemandes, ils ont détecté un cancer supplémentaire pour chaque 1000 femmes testées, selon les chercheurs. L'étude, publiée dans la revue Nature Medicine, est la plus grande exploration en conditions réelles de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à détecter le cancer du sein.
Le taux de détection du cancer du sein est meilleur et c'est une preuve vraiment solide. Sur cette base, nous devrions commencer à utiliser davantage l'IA dans le dépistage du cancer du sein et à terme, cela devrait devenir la norme.
Mais cette amélioration du taux de détection de près de 18% prouve-t-elle que l'IA est supérieure aux humains pour détecter le cancer du sein?
L'IA est vraiment adaptée pour remplacer les lecteurs humains dans une certaine mesure. Mais jusqu'où veut-on aller? Ce n'est pas seulement une question scientifique, c'est aussi une question sociale. Quel est le niveau de confiance de la société envers l'IA?
L'IA a également contribué à réduire le nombre de faux positifs, mais elle a aussi manqué certains cancers. Cependant, selon les résultats de l'étude, les humains en ont manqué 10 fois plus que l'IA.
L'IA, contrairement aux humains, ne se fatigue pas, n'est-ce pas? Je veux dire, l'IA fonctionne de la même manière, que ce soit à 2 heures du matin ou en pleine journée. C'est clairement un avantage et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'IA détecte des cancers que les humains auraient autrement manqué.
Certains s'inquiètent du fait que l'utilisation de l'IA dans la détection du cancer puisse entraîner à long terme une diminution du nombre de radiologues qualifiés.
Les cas complexes, ceux qui nécessitent de prendre en compte plusieurs angles et d'échanger avec le patient, sont des situations où l'expertise d'un radiologue est essentielle et doit continuer à être formée.
Mais l'IA pourrait aussi offrir un avantage.
Je pense que l'arrivée de l'IA est une opportunité et un déclencheur pour nous permettre d'être plus enthousiastes à propos de notre domaine. Les radiologues hautement qualifiés auront l'espace, le temps et la concentration nécessaires pour se concentrer sur des tâches plus complexes.
Le docteur Wei Wang est professeur de radiologie à l'Université du Texas et n'a pas participé à l'étude. Elle s'est dit encouragée par les résultats.
Les données sont très convaincantes. L'augmentation du taux de détection du cancer, la réduction des rappels pour faux positifs et l'impact potentiel sur la charge de travail et l'épuisement professionnel dans l'ensemble, c'est très, très, très positif.
Pour l'instant, un radiologue utilisant l'intelligence artificielle semble être la meilleure approche pour tirer parti des atouts de chacun.
La combinaison d'un humain avec l'IA est bien meilleure que d'avoir uniquement un humain qui lit les images.
Un potentiel progrès pour améliorer la prise en charge des femmes.
Merci à John Linden pour ce récit. Nous en parlerons en profondeur dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de, enfin, introduire mon invité. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel dont le parcours et l'engagement envers la santé publique mérite d'être mis en lumière. D'ailleurs, pour nous parler aussi plus de cette intelligence artificielle, Dr Pierre Diomi, qui est un médecin chevronné avec plus de 10 ans d'expérience en médecine familiale, générale et d'urgence, un diplômé de l'école de médecine de Ross University. Il a effectué sa formation en médecine familiale à l'hôpital Mennonite de Guyana à Porto Rico. Polyglotte, maîtrisant l'anglais, le français, l'espagnol et le lingala, il est une figure bien respectée en tout cas dans la région de Northern Virginia, non loin d'ailleurs de là où j'habite, où il s'est forgé une solide réputation pour offrir de soins de santé de qualité centrés sur le patient. En 2014, le docteur Diomi a complété une bourse postdoctorale au National Institute of Health au sein du National Institute of Neurological Disorder and Stroke où il a collaboré d'ailleurs avec des experts mondiaux sur les troubles du mouvement humain, contribuant à des publications de recherche respectées. Son parcours l'a également conduit à San Juan au Porto Rico où il a pris soin de populations souffrant de troubles liés à l'usage de substances et a offert des soins de plaies aux communautés mal desservies. Aujourd'hui, il poursuit cette mission en Virginie où il continue d'apporter des soins médicaux essentiels à ceux qui en ont le plus besoin. Issu d'une lignée de médecins engagés, Dr Diomi a été inspiré de son plus jeune âge par son père, le professeur Dr Pierre Mawisa Diomi, premier doyen noir et chirurgien de l'université de Kinshasa après l'indépendance de la RDC, et par sa mère, Dr Georgine Mayeta Azoua. C'est pour nous un plaisir, un honneur en tout cas, de recevoir le Dr Pierre Diomi. Docteur, c'est vraiment un honneur, comme je le dis, un privilège de vous recevoir finalement, après tout ce temps qu'on a essayé de se capter.
Merci pour l'invitation.
Bien sûr. Comment vous allez, docteur?
Je vais bien, et vous-même?
Super. Ouais. Ça va très bien. Écoutez, je dois confirmer ici que vous restez fidèle à vos racines congolaises, parce que vous avez créé en 2022 une organisation à but non lucratif, la Fondation Dr Diomi Jr., qui vise à améliorer le système de santé en RDC par la construction d'hôpitaux modernes, la fourniture de desservis médicaux gratuits et la formation du personnel médical local. Ça, c'est à applaudir, Jean-Louis, je pense. C'est là où on applaudit quand on a... Non, mais...
Merci.
Qu'est-ce qui a fait de... Parce que, enfin, il y en a beaucoup qui sortent de leur pays d'origine mais qui ne restent pas, ce qu'on dit en anglais, give back, qui ne rentrent pas chez eux pour aussi donner un peu de ce qu'ils ont appris, mais vous êtes resté en contact. Pour vous, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous?
C'était une mission que mon père m'avait léguée parce qu'il n'a pas pu faire cette partie de la médecine to give back, comme on dit. Donc alors, il a dit que comme moi, je suivais son parcours, que je pense toujours à ma population, parce qu'il y aura toujours quelque chose pour moi à faire au pays. Ouais. Les connaissances que j'ai pu acquérir ici, que j'emmène ça au pays pour pouvoir servir
aussi
la population.
Une très 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 bonne chose. Je ne serai pas seul, le monsieur qu'on appelle Jean-Louis Mafema, qui vient toujours avec des questions difficiles. Moi, ce sont des questions faciles. Lui, ce sont des questions difficiles. Et avant de passer à Jean-Louis, nous venons de suivre ce reportage où une étude récente a révélé que les médecins étaient plus souvent en mesure maintenant de détecter le cancer au sein lorsqu'ils utilisaient l'intelligence artificielle pour interpréter les résultats de mammographie. Et une autre question de cette semaine qui est toujours dans ce même ordre d'idée où on parle de système de santé. Est-ce que aujourd'hui le système de santé devrait-il investir davantage dans l'intelligence artificielle et l'autonomisation? D'après vous, d'abord, un commentaire là-dessus sur ce que l'intelligence artificielle fait aujourd'hui dans la médecine.
Bon, l'intelligence artificielle nous facilite à beaucoup de choses, arriver à des diagnostics assez corrects. Comme on dit que, avant même qu'on commence l'émission, je voulais parler un peu quand nous, par exemple, les médecins généralistes, on fait notre diagnostic, on parle à nos patients, ça nous facilite à arriver au bon diagnostic. Comme la docteure avait dit...
Dans ce reportage-là.
Oui, au reportage, mais ce n'est pas 100% accurate. Il y a toujours ce niveau de formation en tant que médecin qu'on doit appliquer pour arriver au diagnostic final. Oui, mais ça aide beaucoup.
Ça aide beaucoup aujourd'hui.
Oui, ça aide beaucoup.
Et donc, dans votre centre aujourd'hui, vous utilisez aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui?
Oui, on utilise ça pour faire...
Pour autre chose.
Nos notes.
Les notes.
Nos notes médicales. Actuellement, on est en train de l'utiliser.
Ah, d'accord. Oui. Pour les notes médicales. Et vous pensez qu'il y a... Enfin, il faut dire que l'intelligence artificielle est en train de se développer rapidement.
Oui, ça se développe beaucoup. Ouais,
sûrement, d'ici l'année prochaine, ça ne sera plus le nôtre.
En fait, j'ai fait une formation aussi à l'université de Pennsylvanie avec un ami à moi qui est un radiologue.
Oui.
Eux là-bas aussi, ils sont en train d'introduire ça petit à petit.
Donc,
parce qu'il est professeur de radiologie.
Oui.
Et ils étaient en train de voir s'ils pouvaient commencer à utiliser ça pour aider la formation des nouveaux radiologues.
Ah, ouais. D'accord. Jean-Louis.
Oui, je crois que c'est vrai, dans un certain sens, ça peut aider dans l'éducation à distance aussi.
Voilà.
Ouais, pour les apprentissages. Parce que ceux qui sont ici, j'imagine que vous avez les nouvelles technologies. Tandis que dans les pays. Peut-être dans certains pays africains, dans certains autres pays du monde, ils n'ont pas nécessairement cette avancée technologique, donc ça devrait aider. Mais au fait, moi, ma question c'est, quels étaient les challenges pour aller sur place, par exemple au Congo, et commencer à établir ces cliniques, etc. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté en allant sur place?
Bon, les difficultés, c'est plus l'infrastructure. On n'a pas beaucoup de cliniques assez modernes là-bas. Alors le projet qu'on a et que mon père m'avait légué, c'est de pouvoir construire un hôpital au standard américain là-bas à Kinshasa. Alors on est avec ma fondation, on a commencé à chercher des sponsors, des personnes qui peuvent nous sponsoriser, parce que c'est pas une mission facile.
Ouais, pas du tout.
C'est plus ils voulaient qu'on fasse un focus dans l'éducation, parce que lui c'était le premier doyen de la faculté de médecine. Donc il est vraiment dans la formation de la prochaine génération des médecins. Alors c'est ça un peu qu'on est... Bon, le quoi challenge, c'est plus trouver l'infrastructure ou quoi, construire l'hôpital et équiper ça au standard d'ici.
Exactement. Moi, je parlais de... vous avez parlé de votre père plus d'une fois et on a dit comment c'était un docteur bien reconnu en tout cas au pays. Sûrement qu'il a, vous l'avez dit d'ailleurs, si grâce à lui aussi que vous avez fait aujourd'hui, vous avez de suivre ses pas. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, pourquoi vous avez choisi la médecine familiale et d'urgence? Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir
la médecine familiale? Ça nous donne l'opportunité de voir traiter un patient quand il est né, jusqu'à le voir grandir. Oh, wow. Jusqu'à la fin de sa vie.
Ah, wow, j'ai jamais pensé
oui,
à ça.
Oui, ça nous donne cette opportunité-là.
De suivre vraiment
oui,
sa passion.
Ouais. Oui.
Donc mais vous connaissez trop bien ce patient.
Oui, quand vous vous spécialisez dans une partie de la médecine seulement. Alors, moi, quoi, ça m'avait intrigué un peu de pouvoir suivre l'évolution de mes patients. Même, j'ai même des patients même que j'ai... J'ai des quoi dames que j'ai aidées à accoucher. Ils sont venus avec leurs enfants me voir parfois dans ma clinique. Wow. Je ne me rappelais même plus, mais, mais c'est moi qui les ai aidés à mettre au monde.
Oui. Hein.
Tout ça, c'est une fierté.
Oui.
Hein. C'est une fierté de voir que. On peut faire une différence comme ça dans la vie d'une personne.
Absolument.
Effectivement.
C'est vrai.
C'est, on voit comment l'évolution de l'enfant, je pense, c'est de votre patient, c'est une très bonne chose. Vous connaissez tout ce qui suit la personne.
Voilà.
Ouais. Et votre passage, je disais, dans, au NIH, NIH et le NINDS aussi, a-t-il influencé votre approche de la médecine aujourd'hui?
Oui, ça a vraiment influencé parce que là, quoi, on était un peu focalisé dans la neurologie. Tout ce qui était problème de quoi, neurologie, mais plus dans les mouvements qui étaient, comme on appelait, movement des ordres. Bon, avec ça, ça m'a vraiment aidé à comprendre un peu la partie de la médecine qui est quoi, la neurologie, qui est une discipline assez difficile. Mais j'ai travaillé là pendant trois ans. On a publié pas mal d'articles avec nos quoi, recherches scientifiques. Et c'est là que j'ai ils m'ont formé à faire des injections avec le Botox.
Ah bon?
Le Botox. Au fait, quand par exemple, il y a une personne qui a, on peut dire, un AVC, il développe ce qu'on appelle des contractures. Donc,
des contractures?
Oui, ouais. Des contractures.
Ouais.
Pour alors aider ces muscles-là qui sont un peu hyperactifs. On injecte ici le Botox. Le Botox, c'est pas juste pour la beauté.
Pour la beauté.
c'est qu'on croyait tout de suite. Ouais.
Même Lionel pensait déjà sur la beauté.
Une partie aussi médicale.
Ah.
Oui, qu'on utilise le Botox pour aider ses patients. Ouais.
Ça, c'est... On apprend
chaque jour. C'est vrai, on apprend beaucoup.
C'est contre quoi, genre, Lionel, il est contre... Les maux de tête aussi, ouais, Lionel dit c'est contre les maux de tête.
Ouais, les maux de tête aussi.
Ah, ça, je ne savais pas.
Moi non plus. Mais et j'ai toujours eu cette question où, bon, vivant ici aux États-Unis, tu vas voir un docteur américain né, grandi ici, practice ici seulement, n'est jamais sorti du pays. Mais quand je rencontre d'autres personnes qui viennent d'autres pays, en tout cas en dehors des États-Unis, ils préfèrent trouver des docteurs de chez eux ou des docteurs, un docteur étranger, parce qu'ils disent, d'après eux, ils ont plus d'expérience. Vous, docteur Diomi, vous avez fait la Virginie, enfin, vous êtes en Virginie, vous êtes de la RDC, vous avez fait Porto Rico. Ces expériences ont-elles enrichi votre pratique médicale, diriez-vous?
En fait, pouvoir être connecté à toute cette communauté, on attire pas mal de populations. Alors, quand un patient se sent assez à l'aise, parce que avec vous, en tant que médecin, il partage une certaine expérience. Ça peut être la langue, ça peut être le pays d'origine et tout ça. Ça les rend plus à l'aise pour venir chez vous en tant que patient, parce que il a cette confiance là que vous pourrez le comprendre en termes médical quand il a quelques soucis ici là. Par exemple, les réalités ici, les médecins qu'on forme ici, ils sont pas, on nous forme pas dans la malaria. Mais c'est une réalité.
Par exemple, exactement.
Ouais. Mais c'est une réalité. Ouais. Mais c'est une réalité qu'on trouve en Afrique.
Moi, c'est une bonne question. Ouais. Déjà.
Ouais. Moi, quoi, en tant qu'originaire de la RDC, c'est une réalité que la malaria est assez
fréquente. Le paludisme, malaria, tout oui,
c'est vrai. Le paludisme est assez fréquent là-bas. Quand un patient vient me voir, il me dit qu'il vient d'Afrique. Et c'est l'un des diagnostics aussi que je peux facilement avoir en tête.
En tête.
Comparé à un médecin qui n'est jamais sorti,
exactement,
qui a juste été formé ici aux États-Unis, qui n'a jamais eu d'expérience de la médecine tropicale, comme on appelle. Mmh. Alors, donc c'est un peu ça, dans ce cadre-là que... voilà.
Oui, moi c'est vrai, au fait, hein, quand je choisis mes docteurs aussi, je fais toujours très attention à qui je préfère, docteur africain si je peux, ou bien docteur asiatique, parce que je me dis que c'est quelqu'un qui vient de la même région que moi, peut-être, voilà, du monde, et il peut... Il y a de ces choses que nous avons, je vais au pays, je reviens, oui, j'attrape une petite malaria, oui, au moins il saura que, ben, voilà, c'est telle chose, tandis que les autres, on te dit, on te donne Tylenol et puis on y va dormir.
Voilà.
Et c'est ça le problème aussi, c'est, bon, enfin... La rumeur, ou je sais pas, le bruit qu'on dit que non, mais les docteurs américains, eux, non, ils vont te prescrire ce que les pharmaceutiques lui ont dit, vends-nous tel produit, donc il va te donner seulement ce produit-là et pas d'autres. En fait, c'est comme s'il ne s'occupait pas de toi, mais plutôt il veut vendre ses produits, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que les gens ont tendance à bien à choisir, surtout nous, on a tendance à bien choisir à qui on veut choisir comme son médecin. Comme ça, oui.
En revenant un peu sur le NIH, où vous avez fait vos recherches là-bas, quelle avancée, docteur Diomi, dans le traitement des troubles du mouvement humain, hein, vous ont plus marqué?
Bon,
quand on parle de neurologie et tout ça.
Neurologie, ouais. Au fait, quand j'étais là-bas, ils ont implémenté, parce que je travaille aussi avec des neurochirurgiens, hein, donc tous ceux qui avaient à voir avec le movement disorder, il y avait une branche qu'on a là où on était formé du Parkinson. Le Parkinson, en ce temps-là, il développait ce qu'on appelle le DBS. Le DBS, c'est le Deep Brain Stimulation. Alors, ce qu'ils faisaient, ils introduisaient des électrodes dans le cerveau des patients pour les aider avec leur mobilité. Parce que maintenant, au fait, avant cette invention-là, on prescrivait. On prescrivait tout ce qui était dopamine, tout ce... arrivé à quoi à un certain niveau, même ces médicaments-là n'avaient plus d'effet. Mais avec ce produit-là, neurochirurgical, neurochirurgiens arrivaient à aider ces patients à retrouver leur mobilité.
Leur mobilité, oui.
Okay. Oui, donc c'était une invention qu'ils ont commencé à l'NIH, qu'ils ont introduit même à Georgetown Hospital. Ouais. Donc ces opérations-là, de Parkinson.
Wow. Nous allons revenir pour parler plus l'Afrique, la santé en Afrique et au Congo chez vous. Dans un instant, on va respirer un peu en musique et nous revenons dans un instant. Vos questions au plus 1-703-350-3731.
Stop playing with them, Riot.
And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nicki. All of the Barbies is pretty.
Damn.
All of the Barbies is bad. It girls. And we ain't playing tag. Rad. But he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Barbie dream house, the way Ken be killing shit, got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't bailing out. In that pink Ferrari, we pillin' out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. So cold, we just chilling out. Baby, yelling, yelling, yeah, yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. I like the bomb doll, but I still wanna party.
Feel like I'm ready to bend.
I'm a 10, so I pull in a can.
Like,
stay sneaky.
All of the Barbies is pretty.
All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
Nothing to
play ball. He wanna play in the playhouse. Playhouse. The f*** they gon' say now? I'm watching these bitches, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend. All the fake Barbies just wanna pretend. Like, bro, let me go find me a pen. Look where it led. Now I'ma put it to bed. She a Barbie, bitch with her Barbie click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I give the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. Yeah, they know who hit me and Barbie. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink belt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacey, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
RM Show sur VOA Afrique.
C'est chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Quel honneur, quel privilège d'avoir le docteur Pierre Diomi avec nous ce soir pour parler des systèmes de santé, si on doit investir dans, davantage dans l'intelligence artificielle. Une très très bonne question, et vous êtes nombreux bien sûr, on a fait un parcours un peu ici aux États-Unis, mais parlons un peu de l'Afrique aujourd'hui. Docteur Diomi, vous parlez de la RDC, votre engagement d'ailleurs en RDC, vous avez créé cette fondation, docteur Diomi. Quels sont les principaux objectifs de cette fondation?
Ben, les principaux objectifs qu'on a, c'est d'abord aider la population. La population qui n'a pas accès aux soins de santé de base. Ouais, donc ce qu'on minimise ici là-bas, c'est comme un luxe. D'abord en termes de coûts d'accès, et puis tout ça, donc on aimerait vouloir à la longue banaliser ça, faire mettre ça à la portée de tout le monde. Donc c'est ça l'un des objectifs. Hein, ouais. Et puis comme je l'avais mentionné bien avant aussi, la formation de la deuxième génération des médecins.
Très important.
Nous qui avons eu la chance de pouvoir être formés ici en médecine, il y en a beaucoup comme moi. Je ne suis pas le seul Congolais, mais ce qui se passe avec nous, la diaspora des médecins qui évoluent ici, on n'a pas de centres qui sont assez bien équipés pour qu'on aille travailler là-bas et puis former la deuxième
génération.
Et
donc une formation pareille ne n'aiderait à rien s'il n'y a pas de centre, n'est-ce pas?
Ouais. Donc, s'il n'y a pas de centre, c'est pratiquement...
Ouais. Ouais. Et quels sont les premiers projets, par exemple, que votre fondation met en place en RDC ou pensez mettre en place, s'il n'y a pas encore?
Bon, ça sera plus... les vaccins.
Oui.
Ouais. Vacciner, ça c'est un truc très important que les gens aussi oublient. Et puis pas seulement les vaccins, mais aussi la médecine préventive. Ici on prône beaucoup la médecine préventive. Pourquoi ça prévient les complications à long terme? Par exemple, ici, quand vous atteignez un certain âge, on vous dit par exemple, allez faire par exemple un examen de la colonoscopie ou bien de prostate. Les femmes avec la mammographie, tout ce qui est pap smear, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est la médecine préventive est assez en promotion là-bas en Afrique. Parce que ici, au fait, aux États-Unis, ils font la promotion pour ça, parce que dès que une personne est atteinte du cancer, le coût de la chimiothérapie et puis du traitement, quand une personne a des complications, c'est assez élevé que ils préfèrent qu'on capte ça bien avant que ça n'arrive à ce stade-là. Donc, bien avant que ça arrive à ce stade-là, on peut facilement guérir une personne.
Une personne. Ouais. Ben ouais, ben oui.
Ça c'est vrai, ça. Mais ouais, je me demande aussi dans les systèmes de santé en Afrique, pourquoi. Au fait, il me semble que tout se cantonne dans les grandes villes, mais dans les provinces, dans les petites régions, oui. Il n'y a rien comme. Ne fût-ce que. Rien que la base, une petite clinique, etc. et tout, ça laisse à désirer. Vous n'avez pas pensé à dans ce sens-là aussi?
Bon, on avait pensé dans le sens de faire des. Comme on appelle les mobile clinics, avoir des
Cliniques mobiles,
des cliniques mobiles, avoir des petites vannes comme ça, qui va dans les zones rurales, peut-être quelquefois,
dans les villages,
pour aider la population peut-être une fois la semaine comme ça. Pour aider la population.
Mais qu'est-ce que ça demande au fait? Parce que,
ça demande sûrement des fonds.
Oui, beaucoup d'investissements.
Mais je crois que ça vaut la peine de pouvoir mettre une ébauche, peut-être, et puis faire des propositions. Parce qu'en fait, si je dis ça, c'est parce que il y a beaucoup des gens de la diaspora qui aimeraient aider ou qui aimeraient. Il y en a qui aimeraient rentrer.
Voilà.
Il y en a d'autres qui aimeraient aider, mais au fait, il n'y a pas un canal ouvert, quelqu'un qui vient avec une proposition et qui vient et qui donne des chiffres. Mais quand vous donnez des chiffres...
En parlant des chiffres, ça c'est bien de parler de chiffres, on parle de finances. Si ça ne vous dérange pas, docteur Diomi, comment vous comptez financer et construire, par exemple, des hôpitaux modernes dans un pays où l'accès aux soins reste un défi, hein? Et là, on parle déjà de la RDC, vous le savez très bien, on vous apprend
routes,
rien. Comment vous pensez financer et construire?
Bon, des dons, hein.
Par exemple.
Des dons et puis partie privée.
Privée aussi, exactement.
Aussi.
Pour arriver à ça, il faut vraiment tirer de tous les côtés.
Mais il y a quelques... Il y a quelques fondations, quelques industries qui m'ont déjà approché par rapport à ce projet.
Ah bon?
Mais c'est comme vous le dites, ils demandent que j'aie un projet en bonne et due forme.
En bonne et due forme.
En bonne et due forme avec des chiffres bien placés.
Détaillés.
Oui. Donc on est encore à ce niveau-là.
Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui seraient intéressés parce que il y a de ces contrées où il manque les petites infrastructures manquent.
Voilà.
Par exemple, j'avais appris que par exemple une ville comme Kikwit ou je ne sais pas quoi, où il n'y a plus de morgue. Donc donc quand il faut enterrer quelqu'un, il faut l'amener à Kinshasa dans une chambre froide. Et puis après, le ramener pour l'enterrer, c'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est vrai, effectivement, mais c'est très compliqué. Et ce sont des choses que, oui, peut-être, faudrait penser et travailler cette mesure-là. Oui, c'est vrai.
Docteur, quels sont. D'abord, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question quand je lui ai dit qu'on va recevoir le docteur Diomissi. Il a dit. Comment, ça doit être quelqu'un qui est ici aux États-Unis, comment les membres de la diaspora congolaise peuvent-ils soutenir votre projet?
Bon, c'est pas encore ouvert au public. Hein, donc, comme j'ai dit, on est encore à la phase de départ. Quand on va arriver à niveau assez avancé. Je reviendrai ici pour vous donner
quelques détails.
Détails pour que les gens puissent.
Exactement.
Puissent aider.
Ouais. Parlant de soins de santé en Afrique en général ou au Congo en particulier et les défis actuels, quels sont, docteur Diomi, les maladies les plus préoccupantes d'après vous, en RDC en particulier, comme j'ai dit aujourd'hui, et comment votre fondation compte-t-elle y répondre?
Bon.
Pas sûrement quand vous arrivez, vous dites en tout cas, il y a l'urgence ici. On commence par là.
Non, j'ai eu. Parce que j'ai aussi mon numéro de médecin en RDC.
Ah, ok.
Oui, j'ai eu à.
Ah, bah ça, super.
Oui, à travailler dans quelques centres médicaux.
Oui.
Le problème de AVC. AVC à Kinshasa, dans la ville où j'ai pu travailler, c'est un problème qui est fréquent.
Wow.
C'est des trucs qu'on peut éviter. L'AVC, c'est dû à quoi? C'est le problème d'hypertension qui est maltraité. une personne qui a le diabète qui ne se rend même pas compte qu'il y a un problème de cholestérol. Commencer en commençant par ces trois problèmes-là, on peut sauver beaucoup de vies. On peut sauver beaucoup de vies. Wow. Si on commence à faire la promotion,
oui,
des personnes que venez chaque semaine ou bien chaque trois jours, venez vérifier votre tension. Mm. Ou bien votre niveau de sucre, cholestérol, okay, ouais, des trucs comme ça. Avec ça déjà, on pourra sauver beaucoup de vies. Mm. Et c'est des trucs banals ici. Mm. Basiques, banals, qui ne coûtent rien. Mm. Qui ne coûtent rien. Et puis ici, quoi, on peut déjà commencer à faire la promotion de ça au pays. Ça va sauver beaucoup de vies.
Beaucoup de vies, hein, parce,
oui,
que tout le monde...
Oui, c'est vrai, AVC, mais ces derniers temps, c'est les AVC, c'est les trucs, oui, vraiment, tu dis, ouais. Mais il faut dire aussi, bon, vous savez, les tensions sociales, un peu, les gens ne mangent pas comme il faut, etc. Voilà. Et tout, ouais, on mange n'importe quoi maintenant, c'est ce qu'on trouve sur le marché, ça. Mmh. Ça rend les choses assez difficiles, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est vrai. Mmh.
Et j'avais fait une observation aussi en étant à Kinshasa. Les gens mangent beaucoup de grillades. Tout ce qui est grillade, il n'y a pas assez de salade.
Ah oui, ça c'est fréquent en fait. Hein.
Oui, il n'y a pas assez de salade. Oui. Et ça aussi, c'est des problèmes qu'on doit pouvoir régler, aussi pouvoir éduquer la population. Que voilà, c'est pas tout le temps aller manger de la viande,
tout le temps,
il faut aussi parfois manger aussi des légumes, tout ça, et ça aide.
Donc il y a ce côté
culture
aussi, nutrition, qu'il faut aussi
éduquer aussi.
Éduquer, voilà.
Ouais, éduquer la population.
Waouh. Parce qu'on parle de la viande là, c'est vraiment...
Ça c'est vrai.
Ah ben oui. Donc ça c'est déjà écouté. Donc... En matière de santé publique, quels sont selon vous, docteur Diomi, les secteurs les plus urgents à réformer en RDC, santé publique?
En matière de santé publique,
moi personnellement, je dirais tout. Bon, ça c'est moi.
Bon, malheureusement, t'es pas spécialiste.
Bon, la santé publique. La matière que je trouve qu'on doit vraiment mettre de l'accent. C'est vraiment la partie préventive.
Préventif, hein. Ouais,
préventif.
Ouais. Je pense que c'est la clé. Hein.
La préventive. Partie préventive, habituer la population à aller au moins ici. Hein. Ici, c'est comme je dis toujours à mes patients, vous avez un véhicule, votre mécanicien vous demande chaque 3 mois de venir faire votre...
Vidange.
Et puis, vous respectez ça. Chaque 3 mois, vous êtes là. Mais ça fait partie aussi. On peut utiliser la même analogie
pour le
corps humain. Mm-hmm. Une fois l'année, on vous demande juste de venir faire un examen physique complet. Un examen physique, on vous fait quoi? Des prises sanguines. Dépendamment de votre âge, on vous fait des électrocardiogrammes et puis on vous recommande par rapport à votre âge ce que vous devez faire comme vaccin, médecine préventive, si vous devez aller voir un spécialiste ou pas dans cette visite-là.
Mais il y a aussi les exercices par année. Mais il y a aussi les exercices aussi.
Oui, bon, ici aux États-Unis, la réalité, c'est qu'on a un niveau d'obésité assez élevé.
Exactement.
Mais c'est pas trop le cas en Afrique.
C'est pas le même problème.
Oui, c'est pas trop le cas en Afrique. Mais ici, c'est une réalité. Avec l'obésité, le taux d'obésité qu'on a ici, ça emmène à développer beaucoup de problèmes aussi cardiovasculaires, comme le diabète, l'hypertension, tout ce qui va avec des problèmes de arthrite, tout ça, tout ce qui va avec.
Parlons un peu de la télémédecine. Hein. Quel rôle joue la télémédecine aujourd'hui dans l'amélioration des soins pour les communautés éloignées en Virginie comme en RDC?
Bon, la télémédecine, ça facilite à nos patients, parce que nous aussi, on a ce programme-là.
Vous avez ce programme, n'est-ce pas?
Oui, dans notre clinique. Ouais. Ça facilite à nos patients à avoir accès à leurs médicaments, à leurs médicaments de base. Mais quand il s'agit de la diagnostiquer une maladie comme aiguë, ça je suis pas trop. Je ne suis pas trop pour ça, pour la médecine, parce qu'il faut, pouvoir faire un examen physique et puis voir le patient. Parce que toucher le patient, voir le patient devant vous, c'est une expérience différente que voir une personne devant un écran.
Voilà.
C'est vraiment
différent.
Vous êtes
plus détaillé quand vous voyez la personne en face que d'être...
Exactement.
Waouh. Ça, si, ça c'est vrai. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, vous avez travaillé, hein, docteur Diomi, avec des patients souffrant de troubles liés à l'usage de substances. Je le lisais d'ailleurs en titre. Mm-hmm. Quels sont les principaux défis dans ce domaine et quelles solutions recommandez-vous ? Parce que je pose cette question parce que j'ai fait une émission ici où on a parlé de beaucoup de jeunes qui utilisent aussi des substances et qui tombent malades dans plusieurs pays aussi en Afrique. Quels sont les principaux défis dans ce domaine ?
Les défis... Bon, d'abord, c'est une pathologie qui est assez réelle, hein, parce que quand une personne se met déjà à utiliser ce genre de quoi, substance, il y a une partie du cerveau qui change, l'anatomie déjà, donc il devient, comme on appelle ça, le addiction center.
Addiction center.
Oh. Addiction center.
C'est l'addiction même.
Oui, c'est une partie, hein, c'est une partie du quoi, cerveau hein, qu'on a. On appelle ça the pleasure area.
Donc quand quelqu'un
brain,
aime manger tout ce qui est la sucrerie, les sucreries là, c'est aussi le même.
Oui, il y a quoi, une partie du cerveau déjà qui change. Alors avec ça, ces personnes-là ont besoin de beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Il y a quoi, des centres spécialisés dans ça, des centres de détox, détoxification. Et nous, quoi, quand j'ai travaillé à Porto Rico, c'était plus... On n'était pas trop dans la... pour les soigner. Donc, on faisait un peu de la médecine préventive, hein, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient des aiguilles pour se mettre leur substance. Alors, ce qu'on faisait, on leur donnait des quoi, nouvelles aiguilles pour qu'ils n'attrapent pas des maladies, parce qu'il y a le quoi, VIH qui peut se transmettre dans ça, et puis l'hépatite. Donc c'est pour
déjà
en matière de prévention,
les dangers dans ce qu'ils font.
Prévention, donc on faisait ça. C'est un peu notre projet. Bon, on allait souvent la nuit. C'était on commençait à partir de 22h du soir jusqu'au matin.
Wow.
Oui, donc on avait un petit bus comme ça. On allait parce que on connaissait les coins là où ils avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude de se mettre. Alors on avait l'habitude d'aller.
Et ils étaient
comme
réceptifs.
Ça. Oui. Parce que bon, ils savent qu'on n'est pas là pour les
faire du mal.
Pour les faire du mal. On les amenait plutôt des instruments pour quoi, les aider à long terme.
Oh wow, c'est très important ça, si.
Ouais.
C'est vraiment une... Parce que je me disais que ça ne doit pas être facile, hein, ouais. Avec... ça c'est sûr. Docteur Diomi, où voyez-vous dans 10 ans, enfin où vous voyez-vous dans 10 ans, quelle réalisation aimeriez-vous accomplir d'ici là ?
Bon, moi, dans 10 ans, j'aimerais voir d'abord mon rêve se réaliser.
Oui.
Pouvoir construire cet hôpital, cette mission que j'ai dit à mon père avant qu'il nous quitte.
Personne à moi.
Oui, que j'allais accomplir. J'aimerais voir ça devenir une réalité. Ouais. Et puis peut-être commencer à donner cours aussi.
Oui.
Former la nouvelle génération des médecins. Et puis travailler
mais bien sûr.
À temps partiel.
À temps partiel.
Pas comme maintenant.
Ah oui, c'est pas
parce que maintenant c'est vraiment.
C'est pas facile.
Parce qu'il faut souligner ici que le docteur Diomi a son centre, il a d'autres docteurs qui travaillent en dessous de lui, deux ou trois.
Il y en a trois.
Trois docteurs. Ce qui est une très 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 bonne chose. Et donc avant qu'on va commencer à atterrir lentement, mais sûrement, je pense que comme on parle de l'IA, je devais toujours reposer peut-être quelques questions. Alors, selon vous, on a appris ce que vous faites dans l'intelligence artificielle, dans votre. Mais selon vous, quelle est la place actuelle de l'intelligence artificielle dans le domaine médical et comment son utilisation a-t-elle évolué ces dernières années, même si vous ne l'utilisez pas dans votre centre, mais en général, je suis sûr que vous lisez ce qui se passe dans d'autres centres ou dans d'autres hôpitaux. Quelle est la place de l'intelligence artificielle d'après vous, hein? Est-ce un danger pour vous? Est-ce une bonne chose?
Bon, je sais que j'ai quelques collègues qui ne veulent pas que... que ça avance.
Ça avance, ouais. C'est pour ça que j'ai posé cette question.
Mais dans la radiologie, ça aide beaucoup dans le domaine de la... dans la partie diagnostique. Mm. Nous aussi, ça nous aide. Mm. Ça nous aide à travailler plus rapidement, et puis faire nos rapports d'une manière assez détaillée assez complète.
Ouais. Oui, moi je crois que il doit y avoir un équilibre.
Ouais.
Il doit y avoir un équilibre. On ne pourra jamais totalement se débarrasser de l'être humain.
Ouais.
Parce que il y a des éléments dans l'être humain qu'on ne peut pas nécessairement répliquer.
Mmh.
On ne peut pas. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que ça peut aider dans le sens où, si ça peut former, vous savez, l'ensemble des connaissances qui, depuis le départ, ont déjà été découvertes, les choses qui ont été faites, si ça peut aider les docteurs d'aujourd'hui et de demain au fait, quand vous avez une base, vous pouvez vous partir de cette base pour trouver d'autres choses. Vous avez les informations accumulées qui vous permettent de vous aider. Parce que, par exemple, quand on regarde dans les pays africains, je dirais, ils sont en retard en matière de connaissance de ce qui se passe maintenant. Des choses, des fois, qui ont déjà été, des problèmes qui ont déjà été résolus. Mais si vous n'arrivez pas vous-même à savoir, vous tâtonnez toujours. Tandis que si ça peut aider dans ce sens-là, oui.
Ouais.
Mais je ne crois pas que ça remplacera l'être humain.
Non.
Je ne crois pas.
C'est une bonne chose.
Parce que la formation médicale, c'est une formation assez brutale. Hein.
Ah bon?
Brutale. Ah, brutale, ouais. C'est pas facile.
Moi qui pensais déjà faire la médecine.
Non, mais tu tiens la vie d'une personne dans tes mains.
Ouais.
Tu tiens la vie d'une personne.
Ah, ben ça, moi j'ai commencé à faire la médecine en autre vie.
Non, moi pas médecin.
Ça, c'est vraiment. Docteur Pierre Diomi, merci encore une fois. Je pense que votre centre, c'est Valley Patient Care.
Oui, Valley Patient Care, Urgent Care Center.
Oui.
Donc, on offre des services d'urgence.
Oui.
Urgence, mais pas comme salle, une grande salle d'urgence. On appelle ça ici des urgent care.
Urgent care.
Donc, c'est des petites salles d'urgence, là où on fait le diagnostic préliminaire et puis médecine de famille.
Exactement. En tout cas, merci docteur Pierre Diomi d'être passé. Et c'est peut-être la première fois, mais c'est vraiment pas la dernière fois.
Merci. Merci à vous.
Merci pour le temps, en tout cas. Merci infiniment à Bob. Merci à Rob McLean. Merci à Lionel Ounanira Gaïma pour cette émission. Merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission, espérant que nous avons tous appris de notre invité, le docteur Pierre Diomi, qui reviendra encore nous voir ici sur VO Afrique dans RM Show. On s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. God bless. Peace Africa.
C'était RM Show sur VO Afrique.